grand reportage.
Les soldats de Minongleng ne peuvent plus opérer dans le pays. Ils ne peuvent plus circuler à pied. Même par les routes, c'est difficile. Les armées rebelles occupent presque tout le territoire. Il n'y a plus d'administration, plus de police non plus, plus personne qui s'occupe des citoyens. Dans beaucoup de districts, la population a fui les bombardements. Et dans les zones que nous avons reprises à la junte, nous essayons de mettre en place une administration, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne.
Des villageois qui fuient les bombardements incessants pour se réfugier dans la forêt ou les pays voisins, les anciennes armées ethniques qui reprennent les armes et une multitude de nouveaux groupes armés qui voient le jour. En Birmanie, 3 ans après le coup d'état militaire, des combats font rage entre l'armée et les rebelles aux frontières avec la Chine, l'Inde et la Thaïlande. Alors que certains se prennent déjà à rêver de l'après-guerre, les responsables politiques du gouvernement en exil se posent la question d'un modèle démocratique viable pour un pays où cohabitent plus de 140 groupes ethniques différents. Une union fédérale qui reste pour l'instant une utopie, mais à laquelle la jeunesse du pays veut croire, c'est d'ailleurs le cas déjà au sein des combattants Kereni. Birmanie, le rêve d'une union fédérale gagne du terrain, c'est un grand reportage de Carole Izou.
Dans la petite ville de Messé, dans le sud du territoire Kareni en Birmanie, la plupart des bâtiments publics sont en ruine. Détruits par des bombardements de l'armée birmane ou par des échanges de tirs avec les armées rebelles, le rez-de-chaussée du commissariat, un bâtiment à 2 étages aux larges colonnes, n'est plus que débris et gravats. Il y a quelques mois, les jeunes rebelles l'ont pris d'assaut. Ang Ning, 32 ans, faisait partie des combattants.
Voilà, ici c'est l'ancien commissariat. Pendant la bataille, il y avait des soldats et des policiers qui se battaient contre des groupes de jeunes. Ils refusaient de se rendre. On attirait d'abord avec des fusils, puis avec des armes plus grosses, mais ils ne bougeaient toujours pas. Ils s'étaient barricadés là, à l'étage, derrière des sacs de sable. Alors on leur a balancé 2 grosses bombes qu'on avait fabriquées nous-mêmes, avec 20 litres de carburant chacune. En fait, ce qui restait pour la plupart, c'était des soldats birmans. Les policiers locaux, ils avaient déjà démissionné depuis longtemps. Ils sont tous morts, les 17 soldats et policiers. Non, il n'y a pas eu de survivants. Ils sont tous morts. De notre côté, 4 de nos camarades sont morts dans cette bataille. Pendant un mois, les combats étaient très intenses dans toute la ville. C'était un vrai champ de bataille. N'importe quel bâtiment pouvait abriter des combattants. Les tirs pouvaient venir de n'importe où. Puis les Birmans sont partis. Ils ont quitté la ville.
Ang Ning joue un rôle de formateur des nouvelles recrues et de coordination entre les nombreux groupes combattants Kareni de la zone. Tous les jours, au volant de son véhicule 4x4 le long des routes chaotiques birmanes, accompagné d'un camarade, il traverse des zones de forêt ou des villages perdus pour aller parler à différents chefs de guerre au sein de la Kareni Army, l'armée ethnique la plus ancienne, mais aussi différents groupuscules qui contrôlent les points de passage de la frontière thaïlandaise. Il s'agit aussi, c'est peut-être son rôle le plus important, d'entretenir de bonnes relations avec les militaires thaïlandais pour qu'ils ferment les yeux, quand c'est nécessaire, sur certains passages de véhicules, des transports d'hommes et de marchandises, y compris des armes. Côté birman, de nombreux points de contrôle émaillent la route. Chacun de ces checkpoints est placé sous le contrôle de groupes différents et leur géographie est mouvante. D'un jour à l'autre, de nouveaux barrages peuvent apparaître, placés sous l'autorité de nouveaux groupes armés. La tension est palpable.
Arrête-toi là, c'est un checkpoint.
Mais tu les connais ?
Oui, je crois. Bon, attends-moi là. Okay. Surtout, tu ne bouges pas.
Ok.
«
Par chance, les jeunes rebelles, armés de mitraillettes automatiques, appartiennent à un groupe anciennement dirigé par le père d'Ongding, un général du KNPLF, un groupe anciennement communiste qui s'était rangé du côté de la junte birmane dès la fin des années 80 et vient tout juste il y a quelques mois de changer de camp pour rejoindre la résistance.
Avant, je ne m'intéressais pas du tout aux affaires militaires. Je m'occupais de politique et des relations avec les douaniers thaïlandais à la frontière. Mais je n'étais pas un soldat. Je détestais l'idée de la violence. Je ne voulais pas me battre physiquement. J'avais horreur des armes. J'avais choisi d'étudier le droit et de prendre cette voie pour faire valoir les droits des minorités dans la légalité, sans violence. À la mort de mon père, qui avait d'importantes responsabilités militaires, j'ai dû commencer à m'occuper de coordination entre différents groupes, surtout des groupes qui collaboraient avec l'armée birmane, comme le groupe de mon père. Mais lorsque Min Aung Hlaing, le chef de la junte, a pris le pouvoir, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'engager. Les aînés m'ont demandé d'être formateur pour les jeunes combattants. Au début, notre groupe a joué un double jeu. Officiellement, nous étions des alliés de la junte, mais sur le terrain, on aidait les soldats de la résistance. Il faut dire que les anciens au sein du groupe voulaient rester fidèles à l'armée birmane. Donc on était très divisés, à 50-50. Mais les jeunes poussaient derrière. Pour nous, c'était impensable de continuer à les soutenir. Au bout de 2 ans de dictature militaire, on avait convaincu la plupart de nos anciens. Disons qu'on était à 70-30. Et puis la troisième année, on a fait une déclaration officielle pour dire qu'on ne soutenait plus la junte, qu'on était passé à la résistance.
Ce changement de camp d'un groupe historique de la zone illustre à quel point le conflit actuel redistribue les cartes du pouvoir en Birmanie et redessine les alliances. Depuis plusieurs mois, les combats se sont intensifiés partout. Au nord, à la frontière chinoise, l'Alliance de la Fraternité a saisi les villes et les infrastructures principales, forçant les soldats birmans à évacuer. La situation est comparable à la frontière avec l'Inde et le Bangladesh, où la puissante armée de l'Arakan a lancé une offensive. Partout, les forces rebelles progressent et occuperaient désormais la majeure partie du territoire, ne laissant à la junte que le contrôle des régions centrales et des grandes villes. Au mois de novembre dernier, les soldats Karenis ont repris la capitale de l'État, la ville de Loy Kho, lors de combats qui ont duré plusieurs semaines. Ongneng y a participé avec un petit contingent d'hommes. Il nous montre une vidéo où il se tient derrière le commandant des opérations. Les hommes sont barricadés derrière un mur. De l'autre côté se cachent des soldats birmans, dissimulés par des arbres, derrière une grille. Le commandant leur intime de se rendre.
Vous êtes nombreux derrière. Vous m'entendez? Sortez. Arrêtez de tirer. Laissez vos armes et sortez. On ne vous fera pas de mal. Les blessés seront soignés.
Un par un, des soldats birmans apparaissent. Ils ont l'air jeunes, parfois mineurs. La plupart ne portent pas de chaussures. Ils s'écroulent sur le sol et attendent d'être faits prisonniers. Inciter les soldats birmans à la reddition fait partie des tactiques utilisées par les armées rebelles. Des programmes radio sont spécialement diffusés dans ce but. Ces derniers mois, des centaines de soldats birmans, épuisés, démunis et de plus en plus jeunes, se sont rendus aux rebelles. Pour Ongneng, grâce à la jeunesse, la situation du pays pourrait très bientôt basculer, car pour lui, le conflit birman est avant tout générationnel.
La nouvelle génération de jeunes birmans a l'esprit ouvert, l'esprit et le cœur aussi. Elle ne pense pas juste en fonction de ses intérêts personnels. C'est une génération qui connaît le monde extérieur, qui a voyagé, qui a une connaissance des systèmes politiques qui fonctionnent et de ceux qui fonctionnent moins. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui se battent sur le terrain et qui préparent l'avenir. Ils sont très différents de leurs aînés. Avant, nos anciens n'avaient accès qu'à la télévision, aux journaux. Il n'y avait pas Internet. C'était très facile de diffuser de la propagande et de contrôler les esprits. Ils n'étaient jamais sortis de l'état Karenni. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont allés en Thaïlande, à Singapour. Les anciens ne connaissent pas grand-chose d'autre que la vie militaire et de ce que leur disaient leurs chefs. C'était facile pour les militaires de cacher leurs véritables intérêts. Bref, je pense que les anciens étaient plus faciles à tromper que la nouvelle génération. Ils sont trop malins. Aujourd'hui, les différents groupes armés, les PDF, la KNDF et tous les autres, au-delà des étiquettes, ce sont avant tout des jeunes de la nouvelle génération qui se battent ensemble. Pas pour faire avancer l'agenda d'un groupe, pour gagner le pouvoir à des fins personnelles, mais pour leur avenir commun. Nous avons tous le même objectif, faire tomber Minh Aung et le gouvernement militaire. Chaque groupe, partout dans le pays, a des connaissances et des expertises différentes. Il y a des étudiants, des soldats, des médecins, donc tous ensemble, en combinant nos forces, on peut y arriver. Pour l'instant, on se concentre sur la phase de combat et ça tient tout le monde ensemble. Après la chute de Minh Aung Hlaing, ce sera le moment des négociations politiques entre différents groupes.
C'est la principale difficulté des armées rebelles en Birmanie. Tous unis, pour l'instant, dans le combat contre la junte militaire, il leur est parfois difficile de se trouver d'autres points communs que celui de la haine contre les généraux. Le groupe combattant Karenni, le plus important, la KNDF, suscite beaucoup d'attention parce qu'il est souvent cité comme un exemple de diversité ethnique parmi des armées rebelles très ethnocentrées. Dès le début du conflit, la KNDF a su intégrer les jeunes issus de l'ethnie majoritaire Bamar, venus des villes, aux bataillons ethniques locaux. Ses dirigeants veulent donc croire que le groupe peut servir de modèle à la Birmanie de demain, celle d'après le conflit, qui garantirait un espace aux plus de 140 groupes ethniques qui composent le pays. Aujourd'hui, Onang rencontre autour d'un thé et de graines de tournesol à grignoter Utai Neng, membre de l'autorité civile Karenni, pour lui rendre compte de la situation militaire et humanitaire sur le terrain. Pour Utai Neng, chargé des questions d'éducation dans le territoire Karenni, le rêve d'une union fédérale gagne du terrain, mais il reste encore lointain. Il n'exclut pas même la possibilité de l'implosion du pays.
Le processus de négociation politique prend du temps, c'est normal. Nous avons une énorme diversité ethnique et culturelle. Certains groupes sont très bien organisés, très autonomes. Les Kachin, par exemple, à la frontière chinoise, ont leur propre parlement, leur propre système. Ils sont majoritairement chrétiens. Donc bien sûr, les revendications d'autonomie, voire d'indépendance, sont très fortes chez eux. Mais notre gouvernement en exil discute avec tout le monde, tous les groupes issus des minorités ethniques, pour connaître leurs problèmes, leurs aspirations, leurs revendications. Je ne dis pas que c'est facile. Chez certains groupes, comme les Kachin ou les Rakhine, qui ont une armée très bien organisée, certains politiciens militent pour la sécession, c'est vrai. Le risque d'implosion du pays après la guerre est réel. Mais en discutant, je pense que nous allons réussir à rester ensemble et aboutir à un projet fédéral qui rassemble tout le monde. Aujourd'hui, les représentants de l'ethnie majoritaire ont cessé de parler aux autres ethnies comme à des inférieurs. Les mentalités ont changé. Il faut juste bien déterminer ce qui est du mandat du gouvernement central, comme par exemple les affaires étrangères, et ce qui doit relever du mandat des autorités locales. L'idée, c'est de donner le maximum de pouvoir aux autorités locales. Mais peut-être que le gouvernement fédéral pourrait aussi avoir un rôle dans la répartition de certaines ressources essentielles, dans des situations d'urgence. Si par exemple une région manque de riz ou à un moment donné, qu'elle puisse en recevoir d'une autre région. L'idée, c'est de trouver un projet commun sur lequel tout le monde puisse se mettre d'accord.
Une façon d'éviter cette implosion serait, selon un groupe d'universitaires birmans, de renouer avec un modèle politique très ancien dans la région de l'Asie du Sud, baptisé le modèle du mandala, composé d'une multitude de centres de pouvoir ultra-locaux, connectés entre eux par un réseau complexe d'alliances qui maintient un équilibre, très loin d'un système de démocratie pyramidale à l'européenne.
La démocratie. Certains n'ont que ce mot à la bouche. Et parfois, on ne sait même plus ce que ça veut dire. La démocratie, ce n'est pas de calquer un modèle importé de l'Occident à nos populations. D'autant que c'est un modèle qui fonctionne dans des pays souvent très homogènes au niveau ethnique et culturel. Pour la Birmanie, il faut adapter ce modèle en accordant une place beaucoup plus importante aux pouvoirs locaux. Mais n'en déplaise à l'Occident, on va aussi aller regarder du côté de la Chine ou de l'Inde ce qui fonctionne bien dans leur modèle, pour s'en inspirer. On n'a pas une approche dogmatique de la démocratie. Il faut aussi garantir que tout le monde vive dans des conditions économiques décentes. L'idée essentielle, c'est que la définition, les règles du pays dans lequel nous voulons vivre, viennent de la base, du peuple. Parce que c'est bien gentil de répéter ce mot « démocratie, démocratie ». Mais la démocratie imposée par le haut, ça ne fonctionne pas. La démocratie doit venir d'en bas. Et on doit y aller ensemble, progressivement, la définir ensemble.
Mais avant d'en arriver là, les représentants du gouvernement en exil ont bien d'autres urgences à régler. À commencer par celle des centaines de milliers de réfugiés à travers le pays. Parqués dans des camps de fortune pour échapper au bombardement de leur village, ils manquent de tout et surtout d'eau potable. Entre les villes de Messé et Pasang, l'un de ces camps abrite près de 6000 personnes. John et Antonia So sont arrivés avec leurs trois fils en janvier 2022 après un massacre près de leur village. Quelques jours auparavant, le soir de Noël, la junte avait tué et brûlé vif une quarantaine de villageois, y compris des enfants. Agriculteurs, ils vivent aujourd'hui entre quelques planches de bois recouvertes d'une bâche en plastique à proximité d'un point d'eau jaunâtre. Malgré la situation, John ne peut pas s'empêcher de plaisanter.
Ici, c'est ma maison. Enfin, la maison de ma femme, je veux dire, bien sûr. Vous voyez, l'eau qu'on boit, elle n'est pas bonne du tout.
On espère qu'il y aura des donations pour qu'on puisse avoir à manger. On a besoin de riz, de millet.
Pourtant, quand on interroge John à propos de son inquiétude principale, ce n'est ni le manque d'eau, ni le manque de nourriture qu'il évoque.
Bien sûr, il y a le fait qu'on ne se sente jamais en sécurité, qu'on a tout le temps peur d'être bombardé à nouveau. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est le fait que nos enfants soient privés d'éducation. Il y a eu d'abord la période du Covid, pendant laquelle les écoles avaient fermé, puis la guerre est arrivée. En tout, ça fait 4 ans que les écoles sont fermées. Les enfants de 10-11 ans ne savent pas lire, on est revenu 50 ans en arrière. Les ados, eux, sont sur les réseaux sociaux toute la journée, c'est leur seule source d'éducation, il n'y a plus que ça qui compte. Et qu'est-ce qu'ils y voient ? De la violence, du sexe, des enfants de leur âge qui paradent avec des armes. Ils n'ont pas de savoir, pas de repères, et ça m'inquiète énormément.
L'absence d'éducation ne concerne pas que les enfants réfugiés. Environ 60% des enfants birmans sont aujourd'hui déscolarisés. En l'absence d'alternatives pour les jeunes garçons, les parents, comme John et Antonia, craignent de voir leur fils s'enrôler dans les groupes armés. La junte au pouvoir vient d'annoncer une conscription militaire obligatoire pour les filles et les garçons, provoquant un flux migratoire sans précédent vers les pays voisins. Des cas de recrutement forcé au sein des armées ethniques ont aussi été signalés. Pourtant, la jeunesse birmane refuse d'être une génération perdue, s'accroche à ses rêves et veut croire que la victoire sur le régime militaire n'est plus très loin.
Birmanie, le rêve d'une union fédérale gagne du terrain. Un grand reportage de Carole Izou, réalisation Guillaume Buffet.